Cette semaine de jeûne et prière, nous allons vous parler du jeûne par rapport à cette dimension d'être transformé par le renouvellement de notre malade. Je pense que ça ira mieux. Donc je reprends. Romains 12, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devriez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut et ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Et donc, je vous disais que dans cette dimension d'être transformé par le renouvellement de notre mentalité, j'aimerais vous parler en préparation donc de ce temps de jeûne, justement du jeûne. Et il y a trois points que j'aimerais voir avec vous ce matin. Le premier point, c'est chercher la face de Dieu. Le deuxième point, c'est s'humilier devant lui. Et puis, le troisième point, c'est discerner sa volonté. De toute façon, si je veux être renouvelé dans ma mentalité, eh bien, j'ai besoin de me retrouver devant la face de Dieu, j'ai besoin de m'humilier devant lui, et j'ai besoin de discerner sa volonté. Et en introduction, j'aimerais vous lire ce texte d'Ésaïe 58, le premier verset, c'est le verset 3, et après le verset 8, le verset 11 et le verset 12. Et ce que je vais vous lire ce matin, c'est... je vais vous le montrer. J'ai commandé ce petit livret que vous aurez, dès qu'on... Normalement, la semaine prochaine, je pourrai vous communiquer. Et donc... Ce petit livret s'appelle « Comment jeûner avec succès ». C'est un livret d'Eric Prince qui nous donne un certain nombre d'éléments. Et justement, il se base sur ce texte d'Ésaïe 58, verset 3 pour dire un certain nombre de choses que je vais déjà introduire ce matin. Alors tout d'abord, je vais lire ce texte. Ésaïe 58, verset 3. « Pourtant, ils me disent, pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire petits si tu ne le remarques pas ?» Et au verset 8, en réponse à la prière, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici !» Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Et au verset 11, l'Éternel te guidera constamment, il te rassasira dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondations des générations passées, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Amen. Et donc, dans ce texte d'Ésaïe, donc, qui nous parle du jeûne et de la prière, donc on peut relever, mais donc, comme je vous disais, je me suis appuyé sur ce livret de Derek Prince. Au travers des quelques versets que nous devons lire, on a 10 points, qui 10 promesses spécifiques qui sont là en réponse aux jeûnes selon la volonté de Dieu. Le premier point, je pense que, en tout cas, moi ça m'intéresse, mais certainement que ça vous intéresse aussi, c'est ce qu'on a lu au verset 8, alors ta lumière poindra. C'est-à-dire que jeûner et prier selon la volonté de Dieu, eh bien, on obtient la lumière. C'est-à-dire qu'on obtient, on discerne, on apprend à comprendre ce que Dieu, on a la lumière de Dieu en nous, c'est-à-dire que Dieu vient éclairer nos vies, vient éclairer nos cœurs. Ils obtiendront la lumière. Ça, c'est le premier point. La réponse au jeûne, à la prière selon la volonté de Dieu, le deuxième point qu'on trouve dans ce texte du verset 8, c'est « Et ta guérison germera promptement. » Donc, il y a la guérison, il y a la santé en réponse à la prière et au jeûne. Le troisième point, « Ta justice marchera devant toi. » C'est-à-dire qu'on obtiendra la justice selon le cœur de Dieu. Pas notre justice humaine, bien sûr, mais la justice selon le cœur de Dieu. C'est une promesse que Dieu fait. Tu obtiendras donc ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Quatrième point, donc la gloire de l'Éternel. Cinquième point, la réponse aux prières. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. La réponse aux prières. Cinquième point ou sixième, je ne sais plus où j'en suis. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, merci. Sixième point, parce que j'ai mis A, B, C, D, E, F, du coup, je ne sais plus. Je me suis trompé, j'aurais dû faire autrement. C'est pas grave. Donc, sixième point, qui me semble un point tellement important, c'est au verset 11. L'Éternel te guidera constamment. Donc, une direction permanente. L'Éternel te guidera constamment. Ce n'est pas de temps en temps. Il te guidera. Si on cherche, quand on jeûne et qu'on prie, il est ce Dieu qui répond aux prières. Il est ce Dieu qui va nous guider, qui va guider nos cœurs. Septième point, la satisfaction à travers de ce que nous accomplissons selon la volonté de Dieu. Au verset 11, donc, il nous est dit que donc l'Éternel te guidera constamment, il te rassasira dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras, donc ça c'est le septième point, tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Donc le rafraîchissement. Par l'onction de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, par sa présence dans nos vies. Il est ce Dieu, il est la source d'eau vive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, David disait que mon âme a soif de toi comme une terre aride. Et mon âme soupire après toi comme une terre aride desséchée. Il est ce Dieu qui est capable de mettre en nous, même si on est dans notre situation comme une terre aride et desséchée. En tout cas, c'était l'expérience de David. Mais mon âme a soif de toi. Et puis, il y a ce psaume, par exemple, je crois que c'est le psaume 1, qui nous dit qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on est rafraîchi par la présence et par l'onction de Dieu. Donc le rafraîchissement. Neuvième point, ouais, c'était le huitième point, ça, le neuvième point des œuvres durables. Grâce à toi, on rebâtira sur des anciennes et tu relèveras les fondations des générations passées. Et puis le dixième point, la restauration. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Voilà ce qui nous est laissé dans ce texte en réponse au jeûne et la prière selon la volonté de Dieu. Alors, je vais donc aborder mon premier point, chercher la face de Dieu. Pourquoi chercher la face de Dieu? Il y a quelque chose qui me semble, en tout cas, pour ce qui me concerne, assez évident. c'est que si je veux connaître la volonté de Dieu, eh bien, en tout cas, il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que plus je connaîtrai Dieu, plus je m'approcherai de lui, eh bien, plus il amènera ma vie à être transformée selon son cœur à lui. Plus j'aurai cette relation avec lui, plus je serai en communication avec lui. Alors maintenant, il y a une chose qui est sûre. Si je veux chercher la face de Dieu, comment je vais dire ça? Ça ne vient pas tout seul. Je pense qu'on peut tous le constater. Je ne vais pas trouver la face de Dieu si je ne la cherche pas. Et si je veux chercher la face de Dieu, alors je dois mettre de côté tous mes soucis de la vie. Je dois prendre un temps. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte, enfin, dans sa parole, à vivre ces temps de jeûne et de prière, en laissant tout le reste de côté. Je dois me concentrer sur lui. Je choisis de vivre ce temps de jeûne et prière parce que je choisis de chercher sa face. Je choisis de passer du temps dans sa présence. C'est une décision que je prends. Je fais la part des choses entre ma vie de tous les jours et le fait de chercher la face de Dieu. Alors, je vais passer du temps dans sa présence au travers de la lecture de la Bible. Pas seulement la lecture que je peux faire de... Enfin, dire, ben voilà, je vais lire un verset comme ça, mais vraiment chercher la face de Dieu, c'est-à-dire lire la parole de Dieu et puis la méditer. Chercher son cœur, chercher à comprendre, pas seulement la lire, mais lire la Bible, la méditer et vraiment prier. Je vais faire l'effort de ne pas abandonner parce que peut-être que quelquefois, moi je l'ai souvent entendu et puis quelque part je l'ai vécu aussi, bien sûr. Vous savez, quelquefois on veut prier et puis on a l'impression qu'on est tout seul, enfin, je veux dire que Dieu n'est pas là. Et alors on abandonne. Parce que, mais quand on prie, Dieu est forcément là. Si on prie selon le cœur de Dieu, Dieu est forcément là. Alors je vais faire l'effort de ne pas abandonner, de persévérer. Dieu aime quand on persévère. Dieu aime quand on cherche son cœur. Dieu aime quand on cherche sa face. Je ne vais pas me contenter d'un temps de prière et de lecture rapide, enfin, comme, voilà, pour satisfaire en disant, ben voilà, j'ai fait. J'ai prié juste pour, enfin comment je vais dire ça, juste pour satisfaire, enfin ma religiosité entre guillemets. Je vous rappelle ce que nous savons tous et ce que j'avais un peu développé les deux fois précédentes, c'est que on a en nous cette nature charnelle qui est issue, enfin de, enfin, notre nature adamique, hein, notre chair. Qui est contre la volonté, la pensée de Dieu. Et voilà, on veut. Enfin, si je veux chercher la face de Dieu, je ne peux pas me dire en moi-même, je vais chercher la face de Dieu sans que cela ait un coût, quelque part. C'est-à-dire sans que je fais ce choix de consacrer du temps dans la présence de Dieu. Consacrer. C'est-à-dire vraiment tourner mon cœur vers lui. Frères et sœurs, si enfin, la Bible nous parle, enfin, Dieu va nous dire que on doit lui offrir un sacrifice de louange et d'adoration. Alors, on entend, quand on lit ce texte, on entend qu'on doit offrir à Dieu enfin, la louange et l'adoration, mais on doit aussi entendre qu'on doit offrir un sacrifice. Vous savez ce que c'est un sacrifice ? Quelque chose qui coûte. Un sacrifice qui ne coûte pas, ce n'est pas un sacrifice, on est d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est comme ça, ça paraît évident, mais frères et sœurs, chercher la face de Dieu, ça nous coûte. Ça coûte à notre chair. Jeûner et prier en voulant chercher la face de Dieu, ça ne se fait pas tout seul. Enfin, ça ne se fait pas sans qu'on paye le coût. En tout cas, chercher la face de Dieu sont des moments que je veux passer seul à seul avec lui. Je veux connaître la richesse de sa présence. Je veux vivre ce dialogue avec lui. Alors je vais le chercher. Dans Matthieu 6, verset 33, nous est dit ceci. Vous connaissez ce texte, hein, je vais vous le relire, mais je suis sûr que vous ne connaissez peut-être pas la référence, mais vous connaissez ce texte. Préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Donc, c'est une version qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, hein, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Là, ça vous parle peut-être un peu plus. Ouais. Préoccupez-vous en premier du règne de Dieu. On a tellement l'habitude d'entendre ce texte, je parle pour moi peut-être, hein, chercher d'abord le royaume de Dieu, que j'ai tellement l'habitude de l'entendre que. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi des fois reprendre d'autres versions, parce que ça me bouscule un peu plus, je vais dire. Jean-Bernard, préoccupez-vous. En premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire en premier? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de chercher d'abord? En premier. Eh bien, prendre ce temps de jeûne et de prière, chercher la face de Dieu. Enfin, réaliser que dans ce temps-là, en tout cas, c'est ma priorité. Ce que je mets en premier, eh bien, c'est ça. C'est d'abord chercher en premier. C'est ma priorité absolue, la face de Dieu, le royaume de Dieu. Et en tout cas, parce que ça c'est Jésus qui nous dit ça, si nous faisons ça, frères et sœurs, si nous prenons ce temps, enfin vraiment, un temps de sacrifice par rapport à notre chair, hein, oui, mais chercher la face de Dieu en premier, chercher le royaume de Dieu en premier, eh bien, il y a quand même une promesse extraordinaire qui y est attachée. Mais que ma chair n'arrive pas à comprendre, que ma chair n'arrive pas à saisir, parce que, voyez-vous, vous n'êtes pas comme moi, mais les yeux de ma chair, elle voit ce que, je vais le dire autrement, elle croit que ce qu'elle voit, quoi. Hein? Mais, il y a des promesses que Jésus nous donne. Eh bien, voilà. Tout le reste, tout ce qui est le meilleur pour moi, de toute façon, Dieu va me le donner. Si je cherche en premier, si ma préoccupation, si ce que je mets en premier, eh bien, c'est chercher la face de Dieu. Vous savez, ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps, d'ailleurs. Certainement. Mais, on va prendre ce temps dans cette semaine. Du 11 au 15, là, on veut vraiment donner cette occasion à chacun d'entre nous à dire j'ai un temps. J'ai, bien sûr, on a tout le reste de notre vie, on a toutes nos préoccupations, on est les uns les autres, on a notre travail, on a tout, quoi. On a notre maison, on a tout. Mais, Seigneur, cette semaine, parce que je veux chercher ta. C'est toi que je vais mettre en premier. C'est toi que je vais mettre en premier. Je vais me préoccuper de toi en premier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, un texte que vous connaissez certainement très bien aussi. Jésus de nouveau, de toute façon c'est le même chapitre. Hein. Jésus me dit, mais toi quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Et donc, alors qu'on veut vivre ce temps et chercher la face de Dieu, je pense que ce conseil de Jésus est très judicieux. Si je veux vraiment chercher la face de Dieu et pas être perturbé par tout le reste, Jésus nous donne un conseil. Un bon conseil. Mets-toi à part. Ne te laisse pas embarquer par tous les bruits ambiants qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas comment dire les choses, mais je pense que vous comprenez le sens de ce que Jésus nous dit ici. Puis prends un temps à part. Voilà, c'est toi, c'est entre toi et Dieu. C'est toi qui es en train de chercher la face de Dieu. Ce qui est autour ne compte plus. Enfin, c'est pour ça qu'il dit, va dans une pièce cachée de la maison. Parce que, voilà, c'est l'endroit où je me retrouve, moi, tout seul avec mon Père Céleste. Jésus dit, ton Père voit ce que tu fais en secret. Ton Père, enfin, voit que tu mets ce temps à part pour lui. Ton Père voit que, enfin, tu es en train de consacrer du temps pour chercher sa face. Il le sait. Il le voit. Et ça va pas, ça va pas servir à rien, quoi. Si tu prends réellement ce temps pour chercher la face de Dieu, alors tu le fais pas pour avoir une récompense. Mais ton Père te récompensera. Voilà ce que dit Jésus. Chercher la face de Dieu. Ce temps de jeûne et de prière que nous voulons vivre selon la volonté de Dieu. Afin que nous soyons transformés dans notre mentalité. Je ne serai jamais, encore une fois, transformé dans mon être intérieur, dans mon âme, dans mes sentiments, dans mes émotions, si je ne vis pas ce face-à-face quelque part avec Dieu. Enfin, si je ne cherche pas la face de Dieu. Alors, on a une occasion, enfin, cette semaine de jeûne et de prière, c'est une occasion de chercher de tout notre cœur la face de Dieu. La deuxième chose, s'humilier devant lui. Alors, j'ai noté sur ma petite feuille, s'humilier devant lui et non être humilié. Dieu n'est pas ce Dieu qui veut nous humilier. Au contraire, il est ce Dieu qui veut nous élever. Dans Jacques chapitre 4, on a étudié Jacques l'année dernière, Jacques va dire ceci, humiliez-vous. Il n'a pas dit que Dieu va nous humilier, il a dit humiliez-vous devant le Seigneur. Et si vous vous humiliez devant le Seigneur, alors il vous élèvera. C'est ce qui est écrit ici. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 6, il nous est dit, humiliez-vous donc sous sa puissante main, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Peut-être pas à mon temps, hein, mais au temps convenable. Alors, s'humilier n'est pas un acte négatif. C'est pas quelque chose de négatif. Même si dans notre chair, enfin, dans notre nature charnelle, on est tellement orgueilleux de nature, hein, que l'humilité... s'humilier, c'est pas naturel. Et peut-être, et oui, certainement que dans notre nature charnelle, eh bien, s'humilier est un acte négatif. Mais quand on s'humilie devant la face de Dieu, c'est jamais quelque chose de négatif. Je me souviens, je vous l'ai déjà raconté, mais j'en profite pour le raconter parce que ça a tellement marqué ma vie. Il y a ça maintenant de nombreuses années, hein, parce que j'étais tout jeune. Enfin, tout jeune. J'étais déjà dans la vie active, mais il y a bien longtemps. Et à l'église, je n'étais pas encore marié, je crois. Non, je n'étais pas encore marié. Donc, vous voyez, ça remonte à loin. J'habitais à Anzin. Et puis... à l'église à Douai, c'était le Rocher à l'époque. Il y avait justement une semaine de jeûne et prière. Et donc tous les soirs, il y avait des réunions de prière. Et j'y allais tous les soirs. Dans cette semaine-là, je prenais le temps, donc je travaillais, mais le midi, j'étais tout seul dans le bureau. Sébastien n'était pas encore avec moi à l'époque. et j'étais tout seul dans le bureau. Et voilà. Alors je prenais le temps de méditer la parole de Dieu et je me mettais à genoux et je priais dans mon bureau. un jour, cette parole de Dieu qui touchait mon cœur. Et puis, je me suis vraiment humilié devant la face de Dieu. Non, je savais que je m'humiliais devant Dieu. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je vous disais, ça marquait ma vie. C'est que, donc le soir, je pars à la réunion. Et donc, je sors du boulot. Quand je suis arrivé, la réunion était déjà commencée. Et je me mets à genoux avec les autres. Et puis, on prie. Et puis, à la fin de la réunion de prière, un des frères qui avait un ministère prophétique vient me voir et dit: Jean-Bernard, Dieu m'a montré, aujourd'hui tu t'es humilié devant lui. Et parce que tu t'es humilié, il m'a donné un certain nombre de promesses sur ma vie. Alors, voyez-vous, je savais bien que je m'étais humilié, mais ce qui est pour moi a été un temps tellement fort, tellement précieux, c'est de savoir que Dieu avait vu. Dieu voit, Dieu connaît nos cœurs, frères et sœurs. Alors dans sa grâce, il m'a fait savoir qu'il l'avait vu. Mais même s'il ne nous le fait pas savoir, frères et sœurs, Dieu sait, il connaît exactement notre cœur. Alors, oui, je me suis humilié ce jour-là, et je vous dis, ça a été marquant pour ma vie. Et s'humilier, oui, c'est pas un acte négatif. C'est pas quelque chose un peu comme une dévalorisation volontaire ou un rabaissement de notre personnalité. C'est pas ça du tout. S'humilier, c'est prendre conscience de notre petitesse, qu'on n'est que poussière. C'est aussi réaliser la grandeur. C'est réaliser ce que Dieu est, ce que je suis moi, et que je lui dois tout. C'est s'humilier devant Dieu, c'est mesurer ce que je vaux vraiment. J'ai besoin de faire mourir ma chair pour ça, parce que nous, on se trouve tellement d'excuses. On a tellement tendance à se comparer à l'autre en se disant, finalement, je ne suis pas... Enfin, moi, je ne suis peut-être pas top, mais l'autre, c'est encore pire, quoi. C'est un peu notre façon de regarder les choses. Non. S'humilier devant Dieu, c'est se regarder tel que nous sommes face à la sainteté de Dieu, face à ce qu'il est lui. Et puis, s'humilier, c'est aussi autre chose. C'est laisser Dieu utiliser ce peu que nous sommes pour sa gloire à lui. C'est réaliser notre petitesse, mais réaliser en même temps que, avec ce petit que je suis, avec ce misérable que je suis, eh bien Dieu veut faire quelque chose pour sa gloire à lui. Alors, quand on regarde ce qu'on est, quand je regarde ce que je suis, certainement vous êtes un peu comme moi, je suppose, je ne sais pas. Tout dans notre nature devrait nous pousser à l'humilité, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour se glorifier? Et puis on réalise quand même que souvent, c'est l'orgueil qui l'emporte chez l'être humain que nous sommes. On a besoin, nous, de s'humilier. On est tous des orgueilleux. Il faut qu'on regarde les choses en face. Souvent, on réagit avec notre orgueil. On n'aime pas quand Dieu vient bousculer notre cœur parce que quelquefois, on croit tellement faire mieux que lui. Un jour, quelqu'un a dit, j'ai bien aimé ça, Dieu, n'ayant pu faire de nous des humbles, fait de nous des humiliés. À savoir quand même, comme je disais tout à l'heure, que c'est pas Dieu qui veut nous humilier. que Dieu attend de nous, c'est que nous, on prend la décision de nous humilier dans sa présence. S'humilier devant Dieu, c'est quoi? C'est placer Dieu au-dessus. C'est de comprendre, c'est de mettre en pratique dans notre vie. Enfin, c'est de faire taire notre orgueil, parce que sans ça, comment est-ce qu'on pourrait vivre la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait placer Dieu au-dessus? C'est vouloir, c'est saisir que Dieu sait tellement mieux que nous. Et puis, s'humilier devant Dieu, eh bien, c'est se soumettre à son autorité. Je ne peux pas m'humilier volontairement devant lui. Je ne peux pas m'humilier volontairement devant la face de Dieu sans me soumettre à sa volonté. Parce que ne pas me soumettre à sa volonté, eh bien, c'est une rébellion. Par contre, me soumettre à sa volonté, c'est reconnaître la sagesse de Dieu. Savoir et reconnaître qu'il est tellement plus grand que moi, que sa sagesse, elle dépasse mon intelligence, elle dépasse... même la plus grande intelligence, je ne suis pas le plus intelligent sur Terre, loin de là, mais même l'homme le plus intelligent de la Terre n'est rien face à la sagesse de Dieu. Ou je peux le dire autrement, même le plus sage, l'homme le plus sage de la Terre n'est rien sans la sagesse de Dieu, enfin, comparé à la sagesse de Dieu. Alors, s'humilier devant Dieu, donc placer Dieu au-dessus, mettre Dieu en premier, se soumettre à son autorité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir vivre selon les principes divins, selon les préceptes divins. C'est vouloir vivre selon ce qu'il nous laisse, selon son enseignement. Frères et sœurs, quand on parle de soumission et d'autorité, alors, il y a une définition dans le dictionnaire biblique. C'est le placement volontaire de quelqu'un sous l'autorité et le leadership d'un autre. La soumission n'est pas mutuelle. On n'est pas... si dans notre humanité, oui, mais quand on parle de Dieu, en tout cas, non. Quand je me soumets à Dieu, et lui, il est au-dessus. La soumission, c'est reconnaître l'autorité, c'est être sous l'autorité de quelqu'un et être sous l'autorité de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, en ce qui concerne notre soumission, dans cette notion de s'humilier devant Dieu, c'est de toute façon, notre soumission, elle est volontaire et personnelle. Je choisis de m'humilier devant la face de Dieu. Dieu ne me forcera jamais. Dieu me laissera toujours libre. Frères et sœurs, le temps de jeûne et de prière, un temps où on cherche la face de Dieu, et un temps où on vient s'humilier devant lui, un temps où on vient dire à notre chair que on veut se soumettre à son autorité, qu'on se soumet à sa volonté, qu'on le reconnaît comme notre chef. Frères et sœurs, je peux le dire aussi autrement, la seule personne que je dois soumettre dans cette dimension-là, ben c'est moi. En parenthèse, ça veut dire que je ne peux pas soumettre quelqu'un d'autre. Me soumettre à Dieu, c'est moi. Alors, c'est vrai que naturellement, on a plutôt tendance à soumettre plutôt que se soumettre. On revient à cette dimension d'orgueil. Mais dans la Bible, en tout cas, la soumission, et ça c'est vraiment, enfin moi, comment je peux dire ça, c'est j'ai comme l'impression, c'est vraiment le message que Dieu nous laisse, à travers toute la parole de Dieu, dans cette liberté qu'il nous laisse à chacun. La soumission à Dieu, c'est quelque chose qui est volontaire et personnel. Dieu ne m'obligera jamais à me soumettre à lui. Jamais. Dieu ne m'obligera jamais à le reconnaître comme l'autorité suprême pour ma vie. C'est moi qui dois le faire. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, c'est une dimension tellement importante que nous voulons aborder dans cette semaine de jeûne et prière. Je veux dire à mon âme, je veux dire à mon être intérieur, je veux dire à ce que je suis, je veux me soumettre. Je veux apprendre dans ce temps à me soumettre à toi, Seigneur. Vous connaissez encore une fois un autre texte, hein, de Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, dit de nous que nous sommes des chrétiens. On porte le nom de Christ. Alors c'est quelque chose qui s'adresse à chacun de nous. Si mon peuple, sur lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, parce que c'est pas le tout de s'humilier, de prier et de le rechercher, si c'est pour après continuer dans tous mes travers, guillemets, ça ne sert à rien. Autant pas prendre ce temps, ça ne nous sert à rien. Mais, frères et sœurs, si on veut vivre ce temps de jeûne et prière, si on vit ce temps de recherche de la face de Dieu, de cette soumission, de cette humilité, de s'humilier devant lui, eh bien, cette promesse est quand même extraordinaire. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, alors je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Ce texte est extraordinaire, n'est-ce pas? Puis c'est une réalité. Dieu ne ment pas. Alors, un autre élément quand on parle de s'humilier devant lui, il me semble en tout cas. Je ne peux pas m'humilier devant Dieu sans avoir conscience de la gloire de Dieu, sans avoir conscience de la sainteté de Dieu et de la gloire de Dieu. Alors, rapidement, de nouveau, quelques texte. Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. C'était une image de la gloire de l'Éternel, et à cette vue, je tombai sur ma face, et j'entends la voix de quelqu'un qui me parlait. Je tombai sur ma face. Frères et sœurs, quand je m'humilie devant Dieu, et alors qu'on va vivre ce temps de jeûne et prière, si je ne m'humilie pas devant Dieu, ça ne sert à rien de toute façon. Mais si je m'humilie devant Dieu, je vais saisir la. Enfin, ouais, je vais tomber sur ma face parce que je vais prendre conscience de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel chapitre 3, verset 23. Voilà, la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Alors, je tombai sur ma face. Ézéchiel 44:4. Je regardais, voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. Voilà, ce matin, j'aimerais vous encourager tous, en commençant par moi, à tomber sur ma face, à cette humiliation volontaire devant la face de l'Éternel. Apocalypse chapitre 7, versets 11 et 12. Ça, c'est un texte que j'aime aussi particulièrement et qui a un écho dans mon cœur. J'aimerais vous le lire pour qu'il puisse aussi avoir cet écho dans votre cœur ce matin. tous les anges étaient disposés en cercle autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent devant le trône et la face contre terre. Ils adorèrent Dieu en disant : Oui, ainsi soit-il. À notre Dieu soit la louange, la gloire, la sagesse. À lui soit à jamais pour toute éternité la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force. S'humilier devant Dieu. Avoir confiance, enfin conscience de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous voulons vivre. En tout cas, c'est ce que je veux vivre et moi, je pense que vous voulez vivre ça aussi. Dans ce temps de jeûne et prière. Le troisième point, et le dernier point que je vais vous partager ce matin, discerner sa volonté pour moi-même et pour l'Église. Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11. Texte aussi, enfin, tous les textes de la Bible sont des textes extraordinaires. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Discerner sa volonté. Frères et sœurs, l'Église est celle qui manifeste, qui révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Rappelez-moi, qui c'est l'Église ? C'est chacun de nous individuellement, bien sûr, puis c'est aussi chacun de nous ensemble. Eh bien, l'Église que nous sommes, nous sommes appelés à être, à manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur, révèle-moi encore et encore ta sagesse, si je veux la manifester. Alors, dans ce temps de jeûne et prière, je vais apprendre à manifester la sagesse de Dieu. Dans ce temps de jeûne et prière, manifester la sagesse de Dieu, c'est être touché, interpellé par Dieu lui-même, afin d'être transformé dans ma mentalité. Si je suis transformé dans ma mentalité, frères et sœurs, ma vie, enfin mes paroles, mes actes, la façon dont je fais les choses, dont je vis les choses, ils seront transformés. Quand ma vie sera transformée, eh bien, je vais révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. George Müller, alors qu'il avait 70 ans, il me semble, m'a dit un jour, écoutez bien, au cours de ma vie chrétienne, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu, d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois avec sincérité et persévérance au moyen de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Donc, ce qu'il dit, c'est que chercher la volonté de Dieu avec sincérité, d'une part, persévérance, d'autre part. Vous voyez ça, quelquefois, on est tellement impatient qu'on oublie la persévérance. Et ce frère disait, voilà, à chaque fois que j'ai cherché la volonté de Dieu, avec sincérité, persévérance, et au moyen de la parole de Dieu, et par le Saint-Esprit, alors, j'ai toujours été conduit sur une voie droite. Ça, c'est ce qu'il a constaté. Mais il a constaté aussi autre chose. Il dit, mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, mais que plutôt j'ai préféré le conseil de mes semblables aux déclarations de la parole de Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Voilà ce qu'il a constaté. On a besoin de discerner la volonté de Dieu, et discerner la volonté de Dieu, eh bien, on le trouve dans la présence de Dieu, en cherchant sa face par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Dieu ne donnera jamais quelque chose qui est en dehors de... la volonté de Dieu qui nous sera révélée, elle ne pourra jamais être en dehors de ce qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Si c'est le cas, c'est qu'on est en train de se tromper. Et que ce n'est pas Dieu qui est en train de nous révéler quelque chose. La volonté de discerner sa volonté pour moi-même et pour l'Église. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Encore une fois, un texte que vous connaissez tous par cœur, j'en suis sûr. Allez, donc, dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, ces derniers temps, pour ceux, en tout cas, qui suivent l'école biblique, vous avez pu remarquer que c'est un thème qui revient régulièrement. La volonté de Dieu pour l'Église, eh bien, mais aussi d'ailleurs pour nous-mêmes, c'est que nous sommes appelés, comme je le disais, je ne sais plus quand, à faire des disciples. On n'est pas appelé à faire des chrétiens, on est appelé à faire des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui suivent l'enseignement du maître. Alors évidemment, frères et sœurs, c'est une évidence. Comment est-ce que je peux faire des disciples, moi? Ou comment est-ce que l'Église pourrait faire des disciples si elle n'est pas elle-même disciple du maître? Nous devons être des disciples du maître. Nous devons être des hommes et des femmes qui vivons l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la parole de Dieu. Et frères et sœurs, encore une fois, dans ce temps de jeûne et prière, on veut apprendre à discerner la volonté de Dieu pour être des vrais disciples déjà et être amenés à faire des disciples. À faire des disciples et à leur enseigner à observer tout ce que lui a prescrit. C'est ce qui est écrit ici dans ce texte. Je dois, moi, observer, encore une fois. Je dois moi-même commencer par m'apprendre à moi à observer ce qui est enseigné, ce que Jésus m'enseigne, ce que la Bible nous enseigne. Alors, ce temps, cette semaine, ce n'est qu'une semaine. Alors, vous comprenez bien, frères et sœurs, que ce que je suis en train de vous dire, finalement, ça ne se limite pas à la semaine, quand même, de jeûne et prière. Mais cette semaine de jeûne et prière, frères et sœurs, c'est une occasion pour chacun d'entre nous, volontairement. Personne, l'Église, et moi, personnellement, j'obligerai jamais personne à jeûner et prier, ça n'aurait aucun sens d'ailleurs. Mais moi, je vous encourage à le faire, en fonction de ce qu'on vient de voir, de ce que je viens de vous expliquer. Moi, je m'attends à ce que Dieu bénisse nos vies. Et je suis certain. Pourquoi je suis certain? Parce que c'est lui qui le dit. Ça ne repose pas sur une impression de Jean Bernard, quoi, je veux dire. Ça repose sur ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, je vous encourage vraiment à prendre en compte ce temps-là. Pas seulement, encore une fois, pour ce temps de jeûne et prière, mais cette semaine. Puisse vraiment, cette semaine du 11 au 15, qu'on puisse vraiment la mettre à part, qu'on puisse faire un sacrifice enfin, le jeûne, il me semble que le jeûne sans cette notion de sacrifice n'est pas un jeûne. Oui, ça coûte. Alors, je vous encourage à le faire. Je vais vous donner deux choses ce matin. Un document intitulé « Semaine de jeûne et prière du 11 au 15 février » avec différents types de jeûnes proposés. Je ne vais pas tout vous lire maintenant, mais il y a la possibilité, enfin, il y a différentes possibilités de jeûner. Le jeûne total, le jeûne partiel, le jeûne liquide, le jeûne déplaisant, le jeûne spécial, le jeûne de Daniel. Enfin, je vous laisserai lire toutes ces propositions. Et puis... En tout cas, j'aimerais vous rappeler que les pourquoi principaux de notre jeûne, pourquoi est-ce qu'on veut jeûner encore une fois ? Parce qu'on veut chercher la face de Dieu, parce qu'on veut s'humilier devant lui et parce qu'on veut chercher à discerner sa volonté. Et à propos de discerner sa volonté, je vais vous donner un deuxième document pour vos longues soirées d'hiver. Bon, ça va vite à lire. C'est un extrait du livre de Daniel Kolanda qui s'appelle « Vraiment vivre avant qu'il ne soit trop tard ». C'est un extrait du chapitre 3 de son livre que vous pourrez vous procurer si vous voulez. Enfin, je pense qu'on doit pouvoir le trouver dans toutes les librairies chrétiennes. Mais enfin, personnellement, j'ai trouvé ce très intéressant, ce qu'il dit dans cette notion de comment reconnaître la volonté de Dieu. Et pour en préparation de cette semaine de jeûne et prière, je pense que ça sera très intéressant pour nous tous. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un peut venir pour distribuer. Ça, vous l'aurez. Allez, David. Il y a deux paquets comme ça. C'est deux différents. Celui-là, je ne pense pas que tu l'as eu le deuxième. Il manque tel bouquin. Non, je ne l'ai pas envoyé. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde, sinon je pourrai en ressortir. Hein, mais de toute façon, je vous l'enverrai par mail. Mais... On veut chercher à vivre la volonté de Dieu. Voilà. Moi, j'en termine là pour ce matin. Mais on va prier ensemble. Peut-être que quelqu'un a des besoins particuliers dans la prière. Besoin de prière.